Vous écoutez, on lit pour vous.
L'inaccessible cohabitation durable. Un texte de Louise Maude Rioux Soucy, paru le 30 décembre 2025 dans Le Devoir. Avec la série Point de bascule, l'équipe éditoriale remonte la ligne du temps jusqu'au référendum de 1980 et braque les projecteurs sur des Québécois dont le legs a marqué notre paysage sociopolitique. Aujourd'hui, la crise d'Oka, par la voix de Katsi Tsakwas, Ellen Gabriel. Sur papier, la crise d'Oka aura duré 78 jours. Chaque anniversaire depuis s'entête à nous rappeler que ces braises couvent encore. 35 ans plus tard, on pourrait même croire que le temps a suspendu son vol, tant les plaies d'hier sont toujours vives et les relations tendues aux abords de la Pinède où tout a basculé le 11 juillet 1990. Ce jour-là, le caporal Lemay sera tué pendant une descente policière bâclée. L'opération visait à démanteler une barricade autochtone élevée pour protester contre l'agrandissement d'un terrain de golf sur un cimetière ancestral. S'ensuivra un siège armé, une anomalie en soi dans l'histoire du Québec, qui verra aussi la mort d'un aîné Mohawk, Joe Armstrong, terrassé par le stress peu après avoir été la cible de manifestants armés de débris et de pierres, alors qu'il prenait part à un convoi d'évacuation avec d'autres aînés, des femmes et des enfants. La résolution douloureuse du siège servira de prélude à la commission Erasmus-Dussault. Celle-ci jettera les bases d'une redéfinition des rapports entre autochtones et non-autochtones qui reste à faire des décennies plus tard. Il y a eu des avancées, bien sûr. Des exemplaires comme la paix des braves, une entente de nation à nation conclue entre les Cris et le gouvernement Landry. De puissants électrochocs aussi, comme l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ou la commission Vient sur les relations entre les autochtones et nos services publics. Mais leurs recommandations tardent à s'incarner dans le réel. Il suffit de regarder du côté de Kitsisakik pour mesurer combien la justice n'avance pas au même rythme pour tous. Jusqu'à il y a quelques jours, la communauté Anishinaabe n'avait pas d'électricité. Et d'un océan à l'autre, des dizaines de réserves autochtones vivent sans eau potable. Un laisser-faire semblable s'observe autour de la Pinède. Personne ne veut d'une nouvelle crise d'Oka. Mais la vérité, c'est que, tant à Ottawa qu'à Québec, on a échoué à mettre en place les fondements essentiels à l'instauration d'une cohabitation durable entre Kanisatake et Oka. On accepte donc que la vie s'organise sur des fondements inflammables. Et même si des voix de bonne volonté se retrouvent autant au sein de la communauté Mohawk que parmi les Oquois, tous sont condamnés à rejouer dans le même film usé par trois siècles de tiraillements territoriaux irrésolus. À Kanisatake, la vie elle-même est plombée par une gouvernance interne viciée et des activités illicites mêlant trafic de cannabis et déversement de déchets toxiques. L'horizon paraît si bouché qu'ils sont nombreux à peiner à imaginer que la lumière puisse s'y frayer un chemin. L'artiste et militante écoféministe Katsi Tsakwas, Ellen Gabriel, elle, y arrive. La documentariste avait 31 ans quand elle a été choisie comme porte-parole de la résistance autochtone en 1990. Depuis, ses convictions n'ont jamais faibli. Sa voix non plus, y compris aux heures les plus sombres, alors que l'extrémisme autochtone sera classé dans la catégorie « terrorisme intérieur » ou « extrémisme intérieur ». Il le restera d'ailleurs tout au long des années 1990, comme le montrent des documents déclassifiés du Service canadien du renseignement de sécurité récemment rendus publics par CBC Indigenous. Dans ces pages, la Mohawk Warriors Society, une organisation traditionnaliste peu structurée, est décrite comme un groupe rebelle et paramilitaire potentiellement armé et déterminé à défendre ses intérêts. Une lecture que réfute Mme Gabriel, dont l'avis concorde avec les observations de la Gendarmerie royale du Canada. Celle-ci a en effet conclu qu'aucune des armes que les Warriors étaient soupçonnés de posséder n'avait été retrouvée, à l'exception d'un fusil semi-automatique saisi dans la maison longue de Kanawake. Depuis le siège de Kanesatake, Cathy Tsakwas Ellen Gabriel travaille à déconstruire un discours qui voit une menace dans la ténacité de son peuple à protéger ses valeurs et son territoire. Elle l'explique en des termes collectifs qui dépassent la mission d'une seule femme. Le territoire, explique-t-elle, est celui qui enseigne, donne la vie et la préserve. La survie de son peuple, comme de sa culture et de son identité, y sont donc étroitement liées. Depuis leur petite bulle de France, suspendue au nord d'un continent anglophone, les Québécois sont bien placés pour le comprendre. Dans « Quand tombent les aiguilles de pin », publié en 2025, Cathy Tsakwas Ellen Gabriel trace aussi des parallèles entre le combat des Autochtones et celui d'une humanité livrée à la dureté d'un monde en contexte de polycrise climatique, politique, économique et technologique. Sa foi en la puissance du collectif contre tout ce qui rapetisse, divise et blesse rappelle au premier comme au second l'infinie puissance d'une solidarité à réenchanter. C'était l'inaccessible cohabitation durable. Un texte de Louise Maude Rioux Soucy, paru le 30 décembre 2025 dans Le Devoir.
Comment arrêter un antidépresseur? Une question toujours dure à trancher. Un texte de l'Agence France-Presse publié le 11 décembre 2025 sur le site de TVA Nouvelles. Que faire quand un patient sous antidépresseur va mieux? Longtemps négligée en France, la question est aujourd'hui perçue comme un enjeu médical majeur et les recherches s'accumulent sur la manière d'arrêter un traitement. Mais les réponses restent incertaines et difficiles à appliquer. Une vaste étude publiée dans le Lancet Psychiatry apporte enfin des réponses d'une solidité sans précédent grâce à l'ampleur des données recueillies. Dès que l'on change ou réduit un antidépresseur, c'est une source d'angoisse pour la personne concernée, rapporte à l'AFP Christine Villelongue, coprésidente de l'association France Dépression. Or, il n'y a aucun cadre, très souvent, quand on arrête, il n'y a pas de suivi. Après plusieurs décennies d'usage, les médecins savent très bien dans quelles conditions prescrire un antidépresseur. Mais quand le patient va mieux, les incertitudes se multiplient. Faut-il poursuivre le traitement tel quel, avec des effets secondaires qui peuvent s'accumuler à long terme? Le continuer à faible dose? L'arrêter, au risque d'une rechute ou d'un sevrage difficile? Et, si oui, soudainement ou progressivement? Ces questionnements font depuis plusieurs années leur chemin chez les psychiatres avec l'émergence d'un concept, la déprescription, qui incarne l'importance de réfléchir à l'arrêt d'un antidépresseur, une prise de conscience qui n'a longtemps rien eu d'évident. Tout au long de mon internat, achevé pourtant très récemment, ce sujet n'a jamais été abordé dans l'enseignement, explique à l'AFP la psychiatre française Meva Mousseau, présidente de l'Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues. Lorsque les patients expriment le souhait de réduire leur traitement, cela est encore trop souvent interprété par le corps médical comme un déni de leurs troubles, poursuit Mme Mousseau. Norvège et Pays-Bas plus avancés. Elle note que d'autres pays sont plus avancés que la France, comme la Norvège, où des consultations dédiées à la déprescription sont proposées, ou les Pays-Bas, où des microdoses d'antidépresseurs sont autorisées afin de permettre une réduction très progressive. Mais est-ce réellement la meilleure stratégie, comme en sont convaincus nombre de psychiatres? L'idée semble intuitive, mais les spécialistes restent confrontés à un manque criant de données probantes sur la conduite à tenir. Les auteurs de l'étude publiée dans The Lancet, amenés par les chercheurs italiens Giovanni Ostusi et Deborah Zaccoletti, ont évalué l'ensemble des études déjà menées pour comparer les différentes options quand un patient dépressif va mieux, soit plus de 70 essais cliniques portant sur quelque 17 000 personnes. Résultat mis en avant par les chercheurs. Un patient chez qui l'on arrête progressivement un antidépresseur n'a pas plus de risque de rechute que s'il poursuit son traitement, mais à condition de disposer d'un soutien psychologique. La pire option reste, dans tous les cas, un arrêt brutal du médicament. Même si les antidépresseurs sont efficaces pour empêcher les rechutes dépressives, rien n'oblige à en faire un traitement à long terme pour tout le monde, en conclut Mme Zaccoletti, citée dans un communiqué du Lancet. Mais plusieurs spécialistes appellent à la prudence. Ils pointent par exemple qu'une diminution progressive sans soutien psychologique n'apparaît pas forcément plus sûre qu'un arrêt soudain. Même quand on diminue très progressivement un antidépresseur, l'arrêt reste associé à un risque de rechute, prévient le psychiatre allemand Jonathan Hensler dans un commentaire également publié par le Lancet Psychiatry. Selon lui, les résultats montrent surtout le bénéfice supplémentaire apporté par une psychothérapie. Or, pour de nombreux patients, un tel soutien n'est pas une option réaliste, comme le souligne Mme Villelongue, insistant sur la carence de soignants en France. Les conclusions du Lancet Psychiatry s'inscrivent dans un monde idéal, mais la réalité du terrain, ce n'est pas ça, juge-t-elle. C'était « Comment arrêter un antidépresseur ?» une question toujours dure à trancher. Un texte de l'agence France-Presse publié le 11 décembre 2025 sur le site de TVA Nouvelles.
Immigration francophone, quand la culture favorise l'intégration et la rétention, un texte de Camille Langlade, publié le 6 janvier 2026 dans Le Franco. Pour intégrer et retenir les personnes issues de l'immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire, des initiatives fleurissent pour promouvoir une approche artistique. La Fédération culturelle canadienne-française, FCCF, a lancé un projet pan-canadien, culture d'entreprise. pour favoriser l'intégration et la rétention des personnes issues de l'immigration francophone. Comment ? Grâce à la médiation culturelle. Autrement dit, la mise en relation entre les membres d'une entreprise et un ou une artiste pour mener à terme un projet artistique et solidifier des liens entre les gens qui y participent, explique la présidente de la FCCF, Nancy Junot. Ça peut être un projet en théâtre, en danse, en art visuel, précise-t-elle. L'objectif, ce n'est pas tant la production finale que la démarche qui amène les participants à nouer des relations et les échanges que cela engendre. On espère que ce projet va contribuer à faire en sorte que ces nouveaux arrivants se sentent mieux accueillis, qu'ils sentent qu'ils font partie d'une communauté. L'initiative Culture d'entreprise s'étale sur 3 ans. La FCCF compte implanter ce projet dans toutes les provinces et tous les territoires hors Québec. On a un financement pour faire 16 expériences en milieu de travail, rapporte Nancy Junot. C'est un projet clé en main, insiste-t-elle. L'entreprise doit se charger de recruter des participants et participantes, mais ensuite, Culture d'entreprise s'occupe de trouver des ressources artistiques et culturelles dans la région et de mettre en relation les personnes concernées. Nous sommes en pourparlers avec des partenaires pour identifier un milieu d'emploi dans le nord de l'Ontario, en Saskatchewan ou au Manitoba, détaille la FCCF dans un courriel. Un appel d'intérêt sera lancé pour identifier les 6 milieux d'emploi qui seront accompagnés en 2026-2027. Échange Mutuel, la première entreprise à se joindre à l'initiative, est la coop IGA de Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Le gérant, Denis Rioux, a proposé aux membres intéressés de son personnel de former un groupe qui, une fois par semaine, aura l'occasion de travailler ensemble sur un projet artistique de son choix. 4 employés issus de l'immigration et 2 Acadiens ont embarqué. Une bonne proportion de mes employés sont issus de l'immigration des pays francophones. Il me semble qu'il fallait que je joigne ça pour essayer de mieux les comprendre, puis eux aussi mieux comprendre justement la culture d'entreprise canadienne, qui est un peu différente probablement de ce qu'ils vivent dans leur pays. D'un pays à l'autre, les politiques mais aussi les lois liées au travail changent. Denis Rioux estime qu'il peut lui aussi apprendre des personnes immigrantes sur le plan culturel, notamment grâce à leurs coutumes et leurs valeurs. Pour une entreprise comme la nôtre, on a toujours valorisé le respect entre les personnes, peu importe leur nationalité, leur religion ou leur genre. Ça fait partie de notre ADN. Le directeur de la coop espère qu'à terme, cette expérience soudera son équipe. Peut-être que ce sera encore plus agréable pour eux de venir travailler, par exemple. Si je peux permettre à quelqu'un de s'intégrer au marché du travail au Canada, puis qu'après 1 an, 2 ans, la personne est devenue bilingue et qu'elle peut accéder à des emplois supérieurs, que ce soit dans la fonction publique ou dans des échelons d'entreprise supérieurs, j'aurai accompli ce que j'avais à accomplir. Car beaucoup d'entreprises dans les secteurs francophones ont un peu de misère à faire du recrutement et à retenir les nouveaux arrivants, remarque Denis Rioux. Souvent, ils découvrent des milieux où ils ont de la difficulté à s'adapter. Puis plusieurs d'entre eux auront tendance à s'en aller vers des grands centres où ils peuvent trouver plus de membres de leur communauté d'origine, complète Nancy Junot. Intégration économique versus intégration culturelle, l'intégration et la rétention ne sont pas des enjeux propres aux francophones, rappelle la professeure agrégée en géographie à l'Université d'Ottawa et spécialiste en immigration canadienne, Louisa Véronis. Il concerne l'ensemble de l'immigration au Canada. Le pays mise avant tout sur une immigration dite économique, en sélectionnant des personnes hautement qualifiées, avec l'attente qu'elles contribuent rapidement à l'économie. Mais une fois arrivées, celles-ci se heurtent à de nombreux obstacles, comme la reconnaissance des diplômes, les professions réglementées ou encore le fonctionnement très réseauté du marché du travail canadien. En contexte minoritaire, les défis augmentent. Il y a moins d'emplois en français et les communautés sont plus petites, ajoute la chercheuse. Néanmoins, l'intégration sociale et l'intégration économique vont main dans la main, rappelle-t-elle. Louisa Véronis vote ainsi d'un très bon œil l'initiative de la FCCF, très originale et très pertinente à ses yeux. La médiation culturelle permet de développer un milieu de travail plus ouvert et inclusif, au-delà des différences culturelles ou linguistiques. Il s'agit de créer un esprit d'équipe avec des valeurs communes où on travaille ensemble vers un objectif ou un projet. Mettre en valeur justement l'apport, la créativité des différents membres. Un projet artistique, c'est une façon de valoriser les talents, poursuit-elle. Les activités artistiques ont aussi ce pouvoir de permettre aux gens de se connecter à un autre niveau. Seul bémol, selon elle, culture d'entreprise s'adresse à des personnes déjà en emploi et ne répond donc pas directement aux défis de l'embauche des personnes immigrantes. Mais je pense que les entreprises qui vont participer à ce projet peuvent avoir une répercussion sur d'autres employeurs pour que ceux-ci s'ouvrent à engager des nouveaux arrivants. Pourquoi l'art ? Les travailleurs n'ont pas nécessairement l'habitude de participer à des projets culturels et artistiques. Donc, ils sont en train de vivre ensemble une nouvelle expérience qui est nouvelle pour tout le monde. Sacré comme un terrain de rencontre fertile, observe Nancy Junot. Tout passe par la culture, lance Denis Rioux. Que ce soit la lecture, la musique, la nourriture. À Sudbury, le Théâtre du Nouvel Ontario, TNO, organise déjà depuis plusieurs années le concours Par ici le talent, pour tisser des liens entre les organismes culturels francophones de la ville et les nouveaux arrivants. Cette initiative communautaire a vraiment comme but de permettre aux gens de se rassembler, de vivre ensemble des expériences positives par le biais des arts et de la culture, explique la directrice artistique et co-directrice générale du TNO, Marie-Pierre Proux. Le concours en est à sa 3e édition. C'était vraiment pour nous un premier contact avec des immigrants qu'on ne voyait pas à l'époque dans nos salles. Et pour eux, c'est une façon de découvrir la communauté, des nouvelles personnes, de faire des liens, ce qui peut aider à la rétention. C'était « Immigration francophone, quand la culture favorise l'intégration et la rétention », un texte de Camille Langlade, publié le 6 janvier 2026 dans Le Franco.
L'argent comptant n'est pas près de disparaître. Un texte d'Hélène Barry, paru le 17 décembre 2025 dans La Presse. Le stablecoin et le système de paiement en temps réel vont transformer notre façon de faire des transactions, mais l'argent comptant est toujours populaire et n'est pas près de disparaître, assure le gouverneur de la Banque du Canada. Tiff Macklem, qui a prononcé récemment à Montréal son dernier discours de l'année, a choisi de parler des nouvelles responsabilités de la Banque centrale en matière de crypto-monnaie et du système de paiement en temps réel. La technologie bouleverse la façon dont les Canadiens paient leurs transactions, mais contrairement à ce qu'on peut penser, l'argent comptant est encore très utilisé au Canada, a-t-il dit. Environ 80% des Canadiens, y compris les jeunes, et 96% des petites et moyennes entreprises utilisent l'argent comptant, a indiqué Tiff Macklem. Il est utilisé dans une transaction sur 5 au point de vente, et la demande d'argent comptant continue de croître avec l'économie. L'utilisation de l'argent comptant a diminué, mais il reste important pour beaucoup de gens et il a des avantages évidents selon lui. Il est simple et peu coûteux à utiliser, largement accepté et fiable, a-t-il illustré. On peut s'en servir même durant les pannes de courant et de l'Internet, et il est à l'abri des cyberattaques, souligne Tiff Macklem. Même si d'autres formes de paiement gagnent du terrain, la banque va faire en sorte que les billets de banque restent accessibles, a assuré le gouverneur. Les stablecoins, ou crypto-monnaies stables, sont un des nouveaux outils de paiement que la Banque du Canada va encadrer à la demande du gouvernement de Mark Carney. Contrairement au Bitcoin, qui n'est pas utilisé comme moyen de paiement en raison de sa volatilité, les crypto-monnaies stables sont conçues pour servir de monnaie parce que leur valeur sera toujours convertible en dollars ou en d'autres actifs liquides de qualité. Aux États-Unis, la loi appelée Genius Act a ouvert la porte à l'utilisation de ces jetons indexés dans les paiements mondiaux, mais on ne peut pas vraiment prédire leur rôle dans l'avenir de l'argent, estime le gouverneur de la Banque centrale. Selon lui, c'est quand même important que le Canada ait son propre cadre réglementaire pour les crypto-monnaies stables. L'important, estime le gouverneur, c'est la sécurité, la convertibilité et la stabilité de l'argent, peu importe la forme qu'il prend. Monnaie numérique. Les nouvelles responsabilités de la Banque du Canada en matière de crypto-monnaie et la modernisation en cours de l'infrastructure de paiement, qui va permettre le paiement en temps réel sans délai de compensation, ont relégué au second plan son projet de dollar numérique sur lequel elle se penche depuis des années. Populaire en Europe, le concept de monnaie numérique de la Banque centrale l'est moins de ce côté-ci de l'Atlantique. Au Canada, l'intérêt est faible, selon Tiff Macklem. Nous avons fait des sondages et franchement, il y a une diversité d'opinions, a-t-il dit. Il y a ceux qui en veulent, Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas très intéressés et il y en a quelques-uns qui n'en veulent vraiment pas. Donc, ce n'est pas à nous de décider, c'est aux élus de décider, mais on ne voit pas à ce moment si une forte demande des Canadiens ou des entreprises. Charles III dans nos portefeuilles. Les premiers billets de banque à l'effigie du roi Charles III seront émis au début de 2027, a fait savoir le gouverneur de la Banque du Canada. Outre le portrait du roi, le verso du billet de 20 $ sera une illustration du Memorial National du Canada à Vimy. Le nouveau billet de 20 $ sera vertical. Il comportera des éléments de sécurité innovants, a indiqué Tiff McLem. Il combinera pour la première fois deux technologies de sécurité, soit des éléments en 3D et des images qui bougent lorsqu'il est manipulé. Après le roi Charles III, c'est Terry Fox qui sera à l'honneur sur les prochains billets de 5 $. Pas d'or, pas de problème. La plupart des banques centrales dans le monde ont accru récemment leurs réserves d'or pour se protéger de l'inflation et de la volatilité des devises. Le Canada, qui n'a aucun or dans ses réserves, est une exception, admet le gouverneur de la Banque du Canada, qui ne voit pas de raison de changer la composition des réserves du gouvernement fédéral. Nous sommes contents avec nos réserves. Ce sont les réserves du gouvernement. Nous, on gère les réserves pour le gouvernement du Canada. Nous avons des réserves en obligations de grandes devises, en dollars américains, en euros. Nous pensons que nous sommes bien servis avec nos réserves. Oui, nous sommes une exception. C'est vraiment les plans du gouvernement, mais moi, je ne suis pas au courant qu'il veut les changer. Nouveau mandat, même cible. Comme tous les 5 ans, le cadre de la politique monétaire fera l'objet d'une révision en 2026. Cet examen tiendra compte des changements qui rendent les économies mondiales plus vulnérables, mais le ciblage de l'inflation ne changera pas. Une chose qu'on ne révise pas, c'est la cible d'inflation de 2 % en soi, a dit le gouverneur de la Banque centrale. On est convaincu que c'est la meilleure cible. Tiff McLem ne voit pas la nécessité d'ajouter le ciblage du plein emploi au mandat de la Banque du Canada. Notre cadre de ciblage flexible de l'inflation s'est avéré plus efficace et plus durable que toutes les méthodes précédentes, a-t-il soutenu. C'était « L'argent comptant n'est pas prêt de disparaître », un texte d'Hélène Barry, paru le 17 décembre 2025 dans La Presse.